J'en ai fréquenté des cultes. Je suis né presque dans une salle de culte. Je ne compte plus les cultes auxquels j'ai assisté. Mais quelle surprise, quel délice d'arriver après toutes ces années à pouvoir encore assister à un culte où l'Esprit souffle, anime nos chants, nous donne les talents pour exprimer cette grâce et cet amour que le Seigneur a eu envers nous. Et de prendre conscience encore à quel point cette foi est vivante, à quel point notre Dieu est bon et aimant et au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et moi, ce matin, je suis encore réjoui et ému de pouvoir chanter ces chants et de pouvoir dire les paroles que le Seigneur a données à d'autres chrétiens pour exprimer ce qu'il y a au fond de mon cœur. Et croyez-moi, c'est bien au-delà de l'habitude. Pour moi, ce matin, de venir à ce culte, c'est véritable un moment de joie. Et je remercie le Seigneur de pouvoir chanter comme cela et puis de prendre conscience encore de l'œuvre qu'il a faite envers nous. Et j'espère que chacun d'entre vous, et c'est un peu mon désir et mon souci aussi, c'est que chacun d'entre vous ait pu sentir cela ce matin. Sentir cette grâce du Seigneur. Parce qu'il est venu en fait pour chacun d'entre nous. Que nous le connaissions ou que nous ne le connaissions pas, que nous le connaissions depuis longtemps ou très peu. Il est venu pour ça. Et je vous invite ce matin à lire un texte qui nous parle de sa venue. Et ce texte est tiré de l'évangile de Luc. Rémi, est-ce que tu peux le mettre s'il te plaît? Au chapitre 4 de l'évangile de Luc, on lit ceci. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il déroula et trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit « Vous allez sans doute me citer ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même et vous me direz « Fais ici, dans ta patrie, » Tout ce que nous avons appris, tu as fait à Capernaum. » Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Il y a quelques années en arrière, j'ai retrouvé d'anciens camarades de classe. Ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vus, on s'était quittés le jour du bac. Et un premier camarade que je rencontre, qui s'appelle Didier, c'est un camarade, j'étais en CM1 avec lui. Et je me souviens d'avoir passé des week-ends chez lui, il m'apprenait à dessiner des bateaux. Je ne sais plus dessiner des bateaux, mais il était très fort pour dessiner des paquebots. Et puis on s'est suivis en classe, etc. Et tout. Puis Didier est devenu un petit peu, pas le souffre-douleur de tout le monde, mais enfin, il était un petit peu niais. Il était, bon, c'était un camarade, mais enfin, c'était pas quelqu'un d'extraordinaire. Et puis je le rencontre comme ça à ce dîner, puis je dis « Didier, qu'est-ce que tu deviens ?» Il me dit, bah, écoute, je suis armateur. Ah, tu es armateur. Donc tu construis des bateaux. Oui, je construis des bateaux. Comme mon père et mon grand-père. Ah bon? Et qu'est-ce que tu construis comme bateau maintenant? Il me dit, je construis le nouveau France. Beaufrance qui n'existe plus. J'en ai récupéré des morceaux et j'ai obtenu le droit de construire le nouveau France. Et en ce moment, au chantier naval de Saint-Nazaire, se construit le nouveau paquebot France. Wow, Didier. Wow. Toi, Didier, le même Didier, tu construis le paquebot France. Et puis je me promène comme ça, puis je rencontre un autre camarade qui s'appelle Eric. Puis je dis, Eric, toi, et qu'est-ce que tu deviens? Alors il me dit, je suis avocat dans l'immobilier. Ah bon, tu es avocat dans l'immobilier? Oui, oui. Il me dit, mais c'est pas tellement ça qui est tellement important dans ma vie. Alors, je lui dis, ah bon. Et je lui dis, qu'est-ce qui est important dans ta vie? Il me dit, je suis devenu diacre dans l'église catholique. Alors, je lui dis, non, toi, pas toi, Eric. Toi, Eric, que j'ai connu en CM2. Toi, Eric, avec qui on a fait les 400 coups. Toi, Eric, qui te moquais un petit peu de moi quand moi j'allais à l'église et au groupe de jeunes. Toi qui étais catho bien pensant, fils de militaire. Toi qui étais témoin à mon mariage, tu me dis aujourd'hui, des années après, tu es devenu diacre dans l'église catholique. Et quelques mois après, j'étais invité avec Isabelle à, ça s'appelle son ordination en tant que diacre, et d'entendre les témoignages des personnes autour de lui qui disaient, mais Eric, c'est quelqu'un d'extraordinaire sur le plan de la foi. Et avec ces deux exemples, ce que je voudrais vous dire, c'est que souvent on pense, ou parfois on pense connaître des gens, et en fait on se rend compte qu'avec le temps qui passe, en fait on ne les connaissait pas si bien que cela, et il y a des choses qu'on découvre chez eux qu'on ne soupçonnait absolument pas. Et ici c'est un peu la même chose qui se passe. Lorsque Jésus revient à Nazareth, et si on peut revenir au premier écran, il revient chez lui à la maison. Et ici, si vous le lisez dans l'évangile de Luc, ça arrive au chapitre 4, on a l'impression que ça arrive assez tôt dans le ministère de Jésus, après sa tentation. Mais en fait, lorsqu'on recoupe avec les autres évangiles, on se rend compte qu'un certain temps s'est déjà passé, que Jésus est probablement déjà au terme de la première année de son ministère. Mais il arrive à la maison, et là, certainement toutes les personnes avec qui il avait grandi sont maintenant des adultes, ont des enfants, etc. Et tout. Puis ben, Jésus vient, et puis vient à la synagogue. Et peut-être qu'à ce moment-là, tout le monde se retrouvait à la synagogue parce que Jésus y revenait. Puis on avait bien entendu des choses à propos de Jésus. Il faisait des choses un peu bizarres, il racontait des choses. Donc je dis, ben viens Jésus à la synagogue, et puis voilà, samedi, on sera ensemble. Et puis certainement qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont arrivées. Et puis là, comme à l'accoutumée, au moment du rassemblement dans la synagogue, on faisait deux lectures. La première était dans le livre de la loi. Et le deuxième était dans le livre des prophètes. Et puis ce qu'on faisait, c'est qu'il n'y avait pas nécessairement de prêtre ou de pasteur ou de rabbin ou quoi que ce soit. C'est tout simplement, on disait, qui c'est qui veut lire? Et on donnait donc le livre de la loi et le livre des prophètes à tel ou tel homme qui se levait et ensuite faisait un commentaire sur ce texte. Et là, donc, on dit, bah, tiens, Jésus, pourquoi pas à toi? Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Bah, lis-nous un texte et puis dis-nous ce que tu en penses. Et je crois qu'il ne savait pas à quoi s'attendre. Et ici, il y a un texte des évangiles, et c'est là où je deviens de plus en plus admiratif, quelquefois, de la simplicité des textes et des évangiles. Parce qu'ici, en fait, ce n'est pas un texte très, très compliqué. Jésus arrive dans la synagogue, on lui dit « t'es l'invité », on te donne le rouleau du livre d'Ésaïe, il lit un texte, et tout d'un coup, les yeux de tout le monde s'ouvrent, et il s'assoit et il dit tout simplement, ce que je viens de lire et ce que vous avez entendu aujourd'hui est accompli. Wow! Et c'est là où certainement tout l'auditoire, comme on le voit dans les réactions, se sont dit, mais attends, il est en train de nous dire quelque chose là. Il est en train de nous dire quelque chose. Parce que le texte qu'il est allé chercher dans le livre d'Ésaïe, c'est un des textes les plus forts auxquels nous avons accroché toute notre espérance de la venue du Messie. Et lui, il dit, aujourd'hui, cette parole est accomplie. Mais ce qui est encore de plus subtil dans ce texte, c'est que par trois fois, il y a l'utilisation de ce mot « moi » ou « je ». Et je suis certain que tout l'auditoire qui était là disait « Jésus, est-ce que tu es vraiment en train de dire ce que je pense que tu es en train de dire ? Est-ce que tu es en train, maintenant, aujourd'hui, de dire ce texte ? C'est toi ? Et là, on a cette réaction après, il y en a certains qui disent, mais ce n'est pas tout à fait possible, c'est le fils de Joseph. Joseph, c'est qu'un charpentier. Et on sait bien que de la famille d'un charpentier n'est jamais sorti un polytechnicien. Et encore moins le fils de Dieu. Et c'est là où tout d'un coup, Jésus se révèle d'une façon qui n'est pas simplement « je vais vous surprendre dans votre tête », mais ce que Jésus fait, c'est qu'il fait irruption dans la vie de ses amis et des gens qui le connaissaient là à Nazareth. Parce qu'il leur dit « aujourd'hui, pas hier, pas demain, aujourd'hui ». Cette parole que vous entendez, que vous entendez, est accompli. Chers amis, c'est comme si quelqu'un venait ici et disait, vous savez, le Seigneur est revenu à Jérusalem. Vous ne l'avez pas vu, mais il est revenu. Et on est là, on dit, on sait bien que le Seigneur doit revenir, on sait bien qu'il doit revenir à Jérusalem. On sait bien que, mais dans la façon dont nous pensons aujourd'hui et la façon dont les Juifs pensaient à l'époque, c'était impossible que ça arrive à ce moment-là. Parce que eux, la façon dont ils lisaient ce texte, c'est que c'était un texte magnifique qui annonçait, sous la plume d'Ésaïe, la délivrance de la captivité à Babylone, et ça, tout le monde s'en souvenait, c'était un fait historique, et on pouvait dire, Dieu effectivement a délivré, mais tout le monde disait aussi, c'est un signe de quelque chose de plus glorieux encore qui va se passer, qui est cette rédemption finale que le Seigneur va nous apporter au travers de son Messie. Mais le problème, c'est qu'Ésaïe a écrit il y a 700 ans. Ça fait 400 ans que le Seigneur n'a plus parlé par un prophète. On est en Israël, une toute petite province de l'Empire romain qui est sous la botte de ce dictateur de César. Je ne sais plus si c'était César, mais enfin c'était un autre empereur. Et il dit, mais comment est-ce que dans le monde d'aujourd'hui, après toute cette période de silence, est-ce que le salut peut apparaître ? Et est-ce que le Seigneur peut nous rendre visite ? Et les Juifs étaient dans un état d'esprit où il était quasiment impossible que le Seigneur fasse irruption dans leur vie aujourd'hui. Ils avaient la nostalgie du passé, ils avaient une espèce d'idée fumeuse de l'avenir, qui était certainement liée à quelque chose de vrai, mais dans leur tête, il était impossible que ça devienne un événement là, maintenant, à Nazareth. Cette parole est accomplie. Et en lisant ce texte, je me suis dit, wow, arrête-toi un instant. Combien de fois est-ce que nous parlons de Noël et de la période de l'Avent comme étant une sorte de célébration de cette attente qu'avait le peuple juif et puis de l'arrivée du Seigneur, et puis on saute rapidement au retour du Seigneur, la seconde venue, et nous l'imaginons là-bas un petit peu dans un avenir distant, un petit peu, on ne sait pas trop. Et la plupart d'entre nous, on pense généralement que oui, notre vie va continuer comme ça, on va certainement mourir et que ça sera plus tard. Et c'est là où je me demande, c'est à quel point est-ce que nous ne sommes pas dans la même mentalité que les Juifs à l'époque, c'est-à-dire où quelque part il est impossible que la parole du Seigneur vienne dans le monde, vienne dans nos propres vies, et que le Seigneur s'invite dans notre propre vie et dit « aujourd'hui, cette parole est accomplie pour toi. Et en y pensant, me revenaient à l'esprit ces versets que l'on cite souvent, qui est le Seigneur, il dit, on cite ces versets pour la conversion et l'appel à la conversion, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Et c'est là où je me dis, mais cette dernière partie, j'entrerai et je souperai avec lui, ce n'est pas simplement quelque chose qu'il a fait une fois dans le passé au moment où nous sommes convertis, ce n'est pas simplement quelque chose qu'il va faire à la fin lorsque nous serons avec lui, mais il y a toutes les raisons d'interpréter, de penser, j'entre et je reste et je soupe avec cette personne dans sa vie, tout le long de sa vie. Et puis il y a cet autre verset que nous tirons du livre de Job qui dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais aujourd'hui mon œil te voit. Et là aussi, nous avons cette idée que, avant que nous connaissions le Seigneur, c'était distant, c'était par réputation, c'était par ouï dire. Mais là, à un moment, on se retrouve, il faut que le Seigneur soit suffisamment proche pour que notre œil le voie. Et donc, il y a cette proximité. Et Job, il dit, maintenant et pour toujours, mon œil te voit et tu es dans ma vie. Et c'est là où je me dis, est-ce que nous, lorsque nous célébrons Noël, lorsque nous célébrons l'Avent, bien sûr, nous célébrons comme ils célébraient la délivrance d'Égypte, etc. et tout, mais nous regardons à quoi ensuite ? Est-ce que nous regardons simplement au retour du Seigneur ou est-ce que nous pouvons effectivement contempler que cette venue, il y a eu un avant Jésus-Christ et il y a un après Jésus-Christ qui fait qu'aujourd'hui, notre vie et le monde dans lequel nous vivons ne sont plus les mêmes. Ou est-ce que nous sommes tendus entre cette première venue de Jésus et nous regardons et nous aspirons simplement à une deuxième venue qui est là-bas ? Et qu'en fait, nous vivons en espérance et en espérance seulement. Et c'est là où je me dis, lorsque le Seigneur a cette parole extrêmement forte, lorsqu'il cite « Je suis venu pour délivrer, pour annoncer une année de grâce », il est en train de parler comme il parlera tout le long de son ministère, qu'il est venu pour transformer des vies. Et pas simplement transformer des vies plus tard, mais transformer des vies maintenant. Et c'est ce que les apôtres feront eux aussi. Toute leur prédication est tout simplement, depuis que Jésus est venu, nous sommes entrés dans ces derniers temps où le royaume de Dieu peut se manifester, où le Saint-Esprit peut jaillir et où tout ce processus de recréation auquel nous sommes appelés peut prendre place. Les chrétiens du Nouveau Testament ne sont pas simplement des gens qui regardent vers l'avenir en se disant « Très bien, il est venu une fois, maintenant il faut attendre la deuxième pour qu'il arrive, puis après ça sera parachevé, terminé. » Non, ce sont des personnes qui plongeaient immédiatement dans cette nouvelle ère et cette nouvelle phase du salut que le Seigneur a inaugurée, qui est « Il a tout accompli, désormais nous pouvons vivre dans cette vie et cette vie abondante et être transformés par l'Esprit en nous. » De gloire en gloire à l'image de son Fils. Et comme cette parole nous paraît tellement forte et peut-être choquante de dire « Je suis venu pour délivrer, je suis venu pour recouvrer la vue aux aveugles, je suis venu pour libérer les opprimés », une parole qui, il dit, c'est aujourd'hui, mais le Seigneur a cette prétention, c'est que dès aujourd'hui, il peut y avoir cette libération. Et dans le Nouveau Testament, lorsqu'on lit, les signes qui manifestent que nous sommes rentrés dans cette période de salut qui doit se manifester aujourd'hui, se manifestent, oui, par l'œuvre de Jésus-Christ, nous dit l'apôtre Pierre. C'est dans les derniers temps que cela s'est passé et ça a inauguré les derniers temps. Il y a toute la question de l'effusion de l'Esprit, où l'apôtre Pierre, lui, dans le livre des Actes, va aller chercher des prophéties où il est dit « dans les derniers jours », c'est-à-dire ces jours de salut, l'Esprit descendra sur tout le monde. Et ils prophétiseront. Et l'apôtre Pierre dit, c'est maintenant. Et puis Paul dira même à propos de l'Église que c'est l'Église qui bénéficie de tout ce qui est de ces derniers temps qui sont en fait, qui est la période du salut. Ainsi donc, notre texte ce matin nous dit, peut-être ne portons pas simplement nos regards vers l'avenir dans une sorte d'attente ou de résignation, mais de dire qu'est-ce qui a été annoncé aujourd'hui pour que je vive de cela et que ma propre vie soit transformée. Alors certains d'entre vous me diront peut-être, oui, mais la foi, c'est quelque chose qui est lié à des choses qu'on ne voit pas. Alors, ce qui caractérise aussi la vie du chrétien, c'est l'espérance. L'espérance, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore, qui viendra plus tard. Tout à fait vrai. Sauf que pour la foi, si vous reprenez ce qui nous est dit dans la lettre aux Hébreux, c'est que la foi, c'est pas simplement quelque chose, je crois, sans voir, etc. et tout, mais la foi, c'est une ferme assurance et c'est une démonstration. La foi est une ferme assurance et une démonstration. C'est pas simplement je te fais confiance et je vois rien, etc. et tout, mais la foi travaille en nous de façon aussi forte que notre intellect et notre raisonnement pour nous dire ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, ça je crois, ça je ne crois pas. Au point où l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit la foi, c'est une façon de démontrer que le monde a été créé par Dieu. La foi n'est donc pas quelque chose lié à l'avenir et un petit peu flou. La foi est quelque chose qui est extrêmement solide aujourd'hui. De même, l'espérance. L'espérance n'est pas simplement quelque chose que nous avons et qui nous fait attendre pour plus tard. Parce que l'espérance, en fait, est produite par la vie que nous vivons aujourd'hui. Et l'apôtre Paul nous dira que les épreuves produisent la patience. La patience produit la persévérance. Et la persévérance produit l'espérance. Notre espérance est enracinée dans notre vie de tous les jours. Dans l'œuvre du Saint-Esprit qui nous transforme, qui nous aide à avoir patience dans le moment des épreuves, qui nous aide à persévérer. Et qui finit par nourrir cette espérance que oui, effectivement, ce que nous faisons aujourd'hui est juste et vrai, et que notre espérance ne sera pas déçue, et qu'elle ne trompe pas. Il poursuivra juste après pour dire ça. Elle ne nous trompera pas. Ainsi donc, c'est peut-être une erreur de notre part si nous sommes trop penchés ou trop en train de regarder vers l'avenir et que pour l'instant nous disons un petit peu entre deux, la première venue du Seigneur et la deuxième venue du Seigneur, et entre deux c'est un petit peu quelque chose qui, on fait comme on peut. Et c'est ce que faisaient les Juifs, ils faisaient un petit peu comme ils pouvaient. Mais au point où tout simplement lorsque Jésus leur dit « cette parole est accomplie aujourd'hui chez vous », il leur est presque impossible de le croire. Parce qu'il n'y avait pas de place pour ça. Et nous sommes peut-être dans cette même situation. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a de la place pour que le Seigneur aujourd'hui vienne et que ce Noël soit différent dans le sens où, à nouveau, nous reprenions conscience de ce que le Seigneur entend faire dans notre vie aujourd'hui parce qu'il nous a apporté le salut aujourd'hui. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit est accompli? Il y a deux choses principales que l'on trouve dans ce texte qu'on pourrait résumer. La première, c'est une notion de délivrance et la deuxième, c'est cette année de grâce. Le Seigneur nous apporte la délivrance. Combien de personnes aujourd'hui vivent dans une situation où elles aimeraient être libérées de quelque chose dans leur propre vie? Aujourd'hui, il y a entre 20 et 30 millions d'esclaves dans le monde. Donc des personnes qui aspirent à pouvoir sortir, marcher, aller où elles veulent, etc. Vous avez certainement entendu parler de ces trois femmes à Londres qui, depuis 30 ans, étaient tenues en état d'esclavage. Mais il y a entre 20 et 30 millions de personnes aujourd'hui qui sont en esclavage et qui aimeraient être libérées d'une situation et pouvoir goûter la liberté de pouvoir se déplacer comme elles veulent et faire ce qu'elles veulent. Combien de personnes aujourd'hui se sentent liées par leur travail, comme si toute leur vie se réduisait à leur travail pour pouvoir subsister et vivre? Et des gens qui travaillent 18 heures par jour, etc., dans le monde, 7 jours sur 7, tout simplement pour pouvoir se nourrir et nourrir leur famille. Combien d'entre elles voudraient être libérées de cela? Et puis combien de personnes aimeraient être libérées d'addictions auxquelles elles sont accrochées et qui les retiennent? Et de façon peut-être plus simple, plus souple encore, lorsque vous regardez dans votre propre vie et que vous regardez le nombre de pièges dans lesquels vous tombez constamment, des traits de votre caractère que vous n'aimez peut-être pas et dont vous aimeriez être libéré. Je pense que lorsque le Seigneur ici parlait de la délivrance, il savait très bien que ça allait trouver un écho dans le cœur de la plupart des personnes. Parce que même les pharisiens qui, eux, se sentaient supérieurs et justes, etc., et tout, lorsqu'il dit en présence de la femme adultère que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, même les plus purs et les meilleurs des pharisiens ont tourné les talons et sont partis. Et tous les hommes, d'une façon ou d'une autre, portent un fardeau dont ils aimeraient se détacher. Et le Seigneur dit, « Moi, je suis venu apporter ce jour de délivrance. » Et lorsque nous sommes appelés à être transformés, lorsque nous sommes appelés à renouveler notre intelligence pour être transformés par l'Esprit dans notre propre vie, c'est un travail de délivrance et de libération qui se fait. Et c'est peu à peu que le Seigneur qui nous a promis de nous affranchira totalement de ce qui nous retient encore. Ça, c'est la parole que le Seigneur apportait à ses amis de Nazareth. C'est la parole qu'il nous apporte encore aujourd'hui, parce que même si le aujourd'hui était il y a quelques années en arrière, c'est une ère qui dure, et c'est l'ère dans laquelle nous sommes maintenant. C'est-à-dire, nous sommes appelés à être libérés. Mais il y a une deuxième dimension dans ce que Jésus dit, et qui revient à cette notion de l'année de grâce. La plupart des commentateurs admettent que lorsque Jésus parle de l'année de grâce, ou l'année de grâce dont il est parlé dans le livre d'Ésaïe, renvoie aux années sabbatiques et aux années du jubilé que Dieu avait instauré dans le livre du Lévitique au chapitre 25. Dieu instaure deux types d'années. Tous les 7 ans, il y aura une année sabbatique, une année de repos, où tout simplement on laissera la terre se reposer et on vivra de ce qu'on aura accumulé pendant 6 ans. Et puis toutes les 7 fois 7 années, il y a cette année du jubilé, qu'on appelle l'année du jubilé, qui en plus d'être une année de repos, est une année en fait de restauration. C'est-à-dire que durant cette période, tous ceux qui s'étaient vendus comme esclaves sont libérés et retrouvent leur état d'homme libre. Toutes les terres qui avaient été vendues, échangées, etc., et tout, pendant une 40aine ou une 50aine d'années, sont restituées à leurs propriétaires d'origine. Imaginez un petit peu. Si on avait mis ça en place, on efface les dettes, on renvoie les gens libres, et on restitue et on recommence quelque part de zéro. Les gros problèmes aujourd'hui d'équité qu'on a entre les salaires les plus riches, les salaires les plus pauvres, les 0,5% de la population qui détiennent 80% de la richesse mondiale, toutes ces choses-là n'existeraient pas. Eh oui, mais les Israélites, comme tous les hommes, se sont dit « c'est beau, mais pas pour nous ». Et donc l'année du jubilé n'a jamais, jamais, jamais été respectée. L'année du sabbat, l'année sabbatique, oui. Mais l'année du jubilé n'a jamais été respectée. Et les prophètes disent, il faut arriver à cette année du jubilé. Et dans le texte d'Ésaïe, il est dit, moi je viendrai et j'annoncerai et je ferai démarrer cette année du jubilé. Et ainsi donc, dans l'image de l'année du jubilé, on a non seulement on remet les dettes des uns et des autres, mais on restaure les choses telles que Dieu les avait voulues au début et qui étaient belles et magnifiques. Il y a tout un travail de restauration qui se fait dans l'année du Jubilé. Où la dignité de l'homme, elle reste là, qu'il se soit vendu comme esclave ou qu'il ait été quelqu'un de riche et qui a pu acheter des terres. Mais à un moment ou à un autre, Dieu ramène tout et dit, on retrouve tout, on est tous de la même communauté. C'est comme ça que j'ai distribué les choses. C'était mon intention. Et je veux qu'on revienne à cela. Et donc, lorsque Jésus il dit, et il cite ce texte, c'est que non seulement il dit « je suis venu pour délivrer, mais je suis venu aussi pour restaurer ». Et ça ramène ici, il y a plein de choses jusque dans la création, mais ce à quoi l'homme est appelé dans la création du Seigneur, à être cet être à l'image de Dieu, à être ce reflet de l'image de Dieu dans la création. Et c'est ça que le Seigneur est venu inaugurer. Et c'est ça cette œuvre qu'il veut faire en chacun d'entre nous. Nous libérer, oui, mais aussi nous restaurer dans cette place qu'il nous a donnée à chacun d'entre nous d'image de Dieu au sein même de sa création. Pour dominer sur la création, mais aussi pour lui apporter nos louanges. Chacun d'entre nous. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Et lorsque Jésus ici parle des pauvres et des aveugles, il n'est pas simplement en train de dire « je parle pour certains », c'est-à-dire les pauvres, les autres, vous pouvez partir parce que vous n'avez, ça ne vous concerne pas. Je crois que les Juifs à l'époque, ils savaient très bien que déjà toute la terminologie du pauvre, de l'aveugle, de celui qui avait le cœur brisé, c'était une façon de parler de tous les hommes. Parce que Jésus lui-même, lorsqu'il dira, hein, un peu plus tard, il dira « à quoi ça sert de gagner le monde si on perd son âme ?» Et qu'en fait, on peut gagner le monde, mais on peut être pauvre. De même, certains diront, moi je ne suis peut-être pas opprimé, je ne suis peut-être pas esclave. Mais le Seigneur lui aussi, un peu de temps après, il dira, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Et donc ici, c'est une parole qui s'adresse pas simplement à ceux qui se sentent pauvres, ceux qui se sentent le cœur brisé, ceux qui se sentent enchaînés, ceux qui se sentent opprimés, mais c'est une façon de parler de tous les hommes et de leur dire pour tous les hommes, je suis venu pour les libérer. Quelle que soit la façon dont vous vous sentez. Et puis, pour arriver vers la fin, ce que les hommes ressentaient certainement où Jésus lisait ce texte, c'est effectivement cette appropriation que Jésus se faisait du texte. Il n'a pas dit ouvertement « c'est moi ». Mais en lisant un texte comme cela, où on dit « je », où j'ai reçu l'onction, j'ai été appelé à, Jésus est en train de tout ramener sur sa propre personne. Et il est en train de dire « tout va se passer en moi ». Ce qu'il y a de superbe dans ce texte, c'est qu'il y a aussi les deux autres personnes de la Trinité. C'est qu'il y a l'Esprit du Seigneur qui est sur Jésus et il a reçu son appel du Père. Mais ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que c'est vers moi que vous devez venir. C'est dans une relation que nous allons avoir les uns avec les autres que vous allez trouver votre salut, votre restauration, la rémission de votre dette. Et c'est là où c'était l'étape supplémentaire que Jésus, dans un sens, leur demandait de faire, c'est-à-dire vous avez déjà une belle construction dans votre tête et la foi qui dit « oui, nous avons été libérés, oui, le Seigneur va nous libérer ». Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est dire « je reçois cette libération moi-même dans la relation au Seigneur Jésus-Christ. » Et qu'il ne suffit pas de se faire une construction intellectuelle et dans la foi. Il y a un moment ou un autre où il faut entrer en relation avec le Seigneur. Et le Seigneur, il dit, « Vous qui m'avez connu quand j'étais gamin, j'ai grandi avec vous, etc. et tout, c'est moi. C'est à moi que vous devez venir. Parce que c'est en moi que vous aurez votre libération, c'est en moi que vous serez restaurés. Chers amis, il me semble que dans notre vie, on peut peut-être avoir reconnu que nous étions pécheurs et fait cette démarche de foi. Et en cela, oui, notre statut devant le Seigneur a basculé et changé parce que nous avons reconnu que c'était l'œuvre de Christ qui nous sauvait. Mais il y a encore toute une dimension à cette œuvre de salut que le Seigneur souhaite, qui est celle d'avoir cette relation avec nous et que nous ayons cette, que nous puissions dialoguer entre quatre yeux avec le Seigneur lui-même et recevoir de Jésus lui-même ce salut dans notre propre vie. Et c'est pour ça que dans le Nouveau Testament, notre salut est aussi une relation au Père, une relation au Fils. Ce n'est pas simplement une construction mentale que nous nous faisons. Ce n'est pas simplement un moment dire « je reconnais mon péché, donc oui Seigneur, c'est toi qui l'as pris ». Non, au-delà de cela, nous devons rentrer dans cette relation avec le Seigneur. Et ce que le Seigneur dit, c'est des mots qui résonnent dans ce texte. C'est Jésus qui s'approprie et qui dit « cette œuvre de salut, c'est moi qui vais l'opérer dans votre propre vie ». Ainsi donc, mes chers amis, en tout cas pour moi, c'est un texte qui me dit « oui, comment est-ce que je m'ouvre à l'œuvre du Seigneur dans ma propre vie aujourd'hui et maintenant ?» Pas simplement en espérance et dans l'attente, mais aujourd'hui et maintenant. Même si le monde autour de moi semble aller dans une direction différente, même si la façon d'expliquer les choses semble être différente dans notre monde aujourd'hui, le Seigneur, il dit, la vraie réalité, c'est celle de la relation avec moi et le salut qui est en moi. Est-ce que je vais continuer à vivre simplement entre la célébration de Noël lorsqu'il est venu et l'attente dans un avenir diffus? Ou est-ce que je me laisse interpeller par cette parole du Seigneur qui dit aujourd'hui même? Aujourd'hui même. Cette parole est accomplie pour vous qui l'entendez. Est-ce que lorsque vous avez ouvert la porte parce qu'il a frappé à la porte de votre cœur, vous avez soupé un soir, puis vous lui avez dit au revoir, merci, et puis on se reverra plus tard pour un autre dîner? Ou est-ce que le Seigneur est encore avec vous, en train de dîner avec vous? Le Seigneur est venu pour accomplir quelque chose d'extraordinaire. Et tout ce que je souhaite, c'est que nous soyons ouverts à ces choses, même lorsqu'elles nous dérangent, de ce que le Seigneur veut faire dans notre propre vie, qui ne sont pas simplement la rémission de notre dette, comme dans le jubilé, mais aussi la restauration de toutes choses. Mes chers amis, quelle que soit la date du retour du Seigneur, quelle que soit la beauté de ce qu'il prépare pour nous, cela ne change absolument rien au fait qu'aujourd'hui, il est en train et il souhaite faire une œuvre de transformation dans notre propre vie, où que nous en soyons, pour faire apparaître des choses belles et magnifiques que nous ne pouvons pas soupçonner. À nous d'ouvrir notre cœur, à nous de laisser le Seigneur agir en nous par son esprit et de croire que nous verrons certainement plus que ce que nous pouvons imaginer dès maintenant sous l'œuvre du Seigneur dans notre propre vie et de son esprit. Donc, mes amis, je pense que peut-être vous aussi, vous avez eu des circonstances où vous avez cru ou croyez connaître quelqu'un, puis en fait, c'était quelqu'un de différent. Il y a ce très beau livre de Philip Yancey sur ce Jésus que je ne connaissais pas. C'est un livre écrit pour les chrétiens qui fait ressortir des choses que quelquefois nous n'avons pas l'habitude de voir ou que nous avons écartées, mais qui sont des choses magnifiques de ce que le Seigneur était, est et souhaite faire dans notre vie. Chers amis, cette parole aujourd'hui est accomplie. Pour vous qui l'avez entendue, il est venu pour délivrer, il est venu pour annoncer une année de grâce qui est en route. Je vous invite à y entrer pleinement et à profiter de cette saison de Noël, mais plus tard encore pour recevoir cette délivrance et vous laisser transformer par son esprit. Je vous invite à quelques instants de silence, puis ensuite je terminerai par la prière. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous révèle à chaque fois des choses peut-être que nous ne savions pas ou que nous avions oubliées à ton sujet. Et Seigneur, merci parce que comme tu as surpris tes auditeurs à l'époque, peut-être aujourd'hui tu nous surprends aussi. Mais Seigneur, nous ne voulons pas tourner les talons et nous dire « c'est pas vrai, il faut l'expliquer différemment ». Mais Seigneur, nous voulons simplement recevoir cette parole et te dire, Seigneur, que nous sommes ouverts à ta délivrance, nous sommes ouverts à ta restauration. Oui, nous reconnaissons, Seigneur, que à bien des égards, nous sommes pauvres. Bien des choses, peut-être, nous lient encore aujourd'hui. Bien des choses, Seigneur, nous sont incompréhensibles ou nous ne voyons même pas. Mais Seigneur, nous t'invitons à entrer dans notre vie afin que tu puisses ouvrir nos yeux, que tu puisses nous libérer. Que tu puisses guérir, Seigneur, les cœurs qui sont brisés, ceux qui portent des douleurs et des peines qui remontent peut-être très loin et qui semblent tellement difficiles à surmonter. Mais Seigneur, c'est ce que tu as promis, Seigneur, et c'est pour cela que nous prions aujourd'hui, afin que tu fasses cette œuvre dans notre vie, que tu nous affranchisses, que tu nous restaures. Nous te louons pour ton amour et ta bonté. Nous te louons, Seigneur, parce que c'est l'œuvre que tu as voulu accomplir. Et c'est une œuvre d'amour. Nous te remercions pour cela. Au nom de Jésus, amen. Tout comme je vous invitais à laisser le Seigneur entrer dans votre propre vie, mais au quotidien et dès aujourd'hui, en fait, le pain et le vin sont aussi un signe de cela. C'est-à-dire que c'est par le pain et le vin que nous nous nourrissons. Le pain et le vin nourrissent notre corps aujourd'hui, tout comme le Seigneur nourrit notre âme. Nourrit notre espérance. Ce n'est pas simplement un signe qui nous rappelle quelque chose et qui annonce autre chose. C'est aussi une façon de rester lié au Seigneur et d'être nourri par lui. Je voudrais inviter Mélodie et Nathan à s'approcher et demander à l'un et à l'autre de prier et de remercier le Seigneur en notre nom.
Seigneur, merci de m'inviter à ta table. Je te demande pardon parce que je suis un pécheur et ton corps a été brisé à la croix pour racheter mes fautes, Seigneur. Viens et aide-moi, aide-nous, Seigneur. En ton nom, amen.
C'est vrai, Seigneur, on veut te dire merci pour ce que tu as fait pour nous. Je crois qu'on réalise pas, Seigneur, cette grandeur de cette croix. Mais Seigneur, en même temps, tu nous invites, c'est vrai, à déposer nos fardeaux, à te remettre tout ce qui nous pèse et à t'inviter dans notre vie, Seigneur, tous les jours. C'est vrai, pas en attendant plus tard, mais aujourd'hui déjà. Et merci, Seigneur, parce que tu agis dans nos vies aujourd'hui. Merci parce que tu es ce Dieu puissant qu'on a chanté aussi. Et c'est vrai, Seigneur, que tu fais de grandes choses dans notre vie. Vraiment, reçois ces moments comme un cadeau pour te remercier de tout ce que tu fais, Seigneur. Amen.
Concernant les activités cette semaine, mardi soir, c'est le temps des cellules de prière. Les cellules chez Manu et Rebecca, mardi, ici, pour Prévesaint. Chez Philippe et Anne-Marie pour Gex, et puis j'ai pas de nouvelles pour la cellule de Collonges. Chez vous, c'est chez Pierre et Déborah. Voilà. Pour les cellules, c'est important. Les cellules sont importantes, je ne vais pas dire cette semaine, non, elles sont tout le temps importantes. Mais on a beaucoup de sujets de prière, on a beaucoup de personnes qu'il faut qu'on porte. Vous verrez à peu près dans les annonces des personnes qui sont en souffrance dans l'Église. Jeudi, il y a deux choses en même temps, je dis, ici. Il y a à partir de 20h le parcours baptême, donc au sous-sol. Je crois que les personnes qui étaient au parcours baptême de dimanche ont reçu plein fouet ce qui nous était dit ce matin, autant dans le temps de louange que dans le temps du message. Et on est reconnaissant à Dieu aussi de nous parler. Et puis en même temps, il y a la chorale ici, à 20h30. Donc on veut se réjouir les uns les autres pour ces temps de partage aussi. Samedi, le club d'ados, le matin, de 10h à... Le club d'enfants, pardon, excusez-moi, de 10h à 12h, le samedi. Et puis, l'après-midi, quelque chose d'un petit peu spécial, c'est du bricolage, l'après-midi. Il y aura, le dimanche, une vente à la sortie du culte, un espèce de mini-marché de Noël, une petite vente à la sortie du culte de bricolage qui sera au bénéfice de Porte Ouverte. Et le samedi après-midi, pour tous ceux qui le veulent, eh bien, il faudra fabriquer ces bricolages pour les vendre le lendemain. Donc, tous ceux qui ont des idées ou qui ont vraiment envie de venir partager ce temps, c'est fabriquer des petits motifs de Noël, des petites choses comme ça pour décorer, qui seront vendus à la sortie. Donc, prévoyez aussi vos petits porte-monnaie avec de la monnaie pour le dimanche prochain. C'est sympa aussi. Voilà. Et puis, donc, samedi soir, le groupe de jeunes encore. Dimanche, café-thé avant le culte à 9h30. À 10h30, notre culte. Et après, donc, cette vente. Pour ce qui est des annonces encore, je dirais juste, Lydie me fait signe de quelque chose, mais je ne vois pas ce que c'est, je m'excuse. Les prospectus. Ah oui, bien sûr, les prospectus pour le club d'enfants. Il y en a là-bas qui sont mis au fond pour donner. Je rappelle que le but est d'inviter des enfants, que vos amis, vos enfants invitent des copains, etc., ou inviter des enfants de voisins pour ce temps qui est vraiment sympa. À la sortie du culte aujourd'hui, vous avez entendu que tout ce week-end, c'était le Téléthon. On a participé au Téléthon avec un petit travail spécial, une partie de repas. Et il y a, à la sortie de l'église, des restes de panna cotta. Enfin, c'est des bons restes. Hein. Quand je dis des restes, ce n'est pas en vrac. Hein. J'entends. Il y a des panna cotta et de la salade verte. Donc voilà, profitez-en aussi en sortant. Je rappelle encore que c'est le dernier jour pour le retour des enveloppes, pour le vote. Vous y pensez? Merci. Si ça vous pose un problème, vous appelez un des anciens. Voilà. Maintenant, j'en viens aux personnes qui ont vraiment besoin de nos prières et à qui il faut penser. Et je vais commencer par Hélène Tadford. Hélène Tadford a été opérée cette semaine. L'opération s'est normalement passée. La suite est un peu plus compliquée. Hélène est toujours aux soins intensifs, en tout cas était toujours aux soins intensifs en fin de semaine là. Voilà, donc on veut penser vraiment, vraiment à eux, à Brian, à Hélène. Donc il y a un futur temps de convalescence aussi dans une maison en Haute-Savoie. Là, on vous donnera les indications plus précises. Je mettrai toutes ces infos sur le site aujourd'hui aussi. La famille Kuipers a été aussi opérée, vous savez, cette semaine. Là, il y a eu un petit changement de programme. Guylaine a été opérée, Jacques a été opéré, mais ils n'ont pas eu de place les deux dans la maison de convalescence. Donc ils sont chez eux. Ils sont rentrés chez eux. J'ai Brigitte ce matin au téléphone qui s'en occupe, qui m'a dit pour l'instant, n'allez pas leur rendre de visite, on vous dira que ça sera possible, quoi, parce qu'il faut les laisser aussi se reposer. Guylaine est bien fatiguée. Jacques, lui, a une opération beaucoup plus simple, donc la crainte c'est qu'il se remette tout de suite à ses activités, vous savez comme il est actif, et donc il faut qu'il prenne temps aussi de s'occuper de sa femme, donc voilà, donc c'est toute quelque chose à mettre en route. Mike est parti lundi dans un centre pour une cure de désintoxication pour pratiquement tout le mois de décembre. Donc, il faut vraiment, vraiment penser à lui. Vous pouvez lui téléphoner sur le site. Il y a son... Enfin, non, vous pouvez lui écrire. Excusez-moi. Vous pouvez lui écrire. C'est beaucoup plus simple. Vous pouvez lui écrire. Il appréciera beaucoup d'avoir du courrier. Vous pouvez lui écrire. Et sur le site, il y a son adresse. On a mis son adresse. Voilà. Donnez encore de nouvelles d'autres personnes. Rachel est fatiguée. Oui, Jean-Michel. Oui, mais on évite de lui téléphoner. On évite de lui téléphoner parce qu'il a pas mal de points où il est occupé dans la journée. Donc, on évite. On veut éviter de faire qu'il y ait une agglomération là de téléphones. Et puis, il faut qu'il se repose aussi beaucoup. Donc, on essaye de lui écrire plutôt. C'est sympa. Puis, c'est vraiment chouette de recevoir du courrier dans ces cas-là. Merci quand même de ton, de ton appel. Et puis, on voulait donc donner des nouvelles de Rachel. Rachel est fatiguée, vous savez qu'elle a une santé fragile, elle est spécialement fatiguée, on veut vraiment continuer à prier pour Rachel aussi. Et puis, dire aussi que Mariano, le papa de Nelly, va être opéré demain aussi d'une opération du cœur. Donc, on veut aussi penser à Philippe, à Nelly, à Mariano et à la famille qui s'en occupe aussi. Ça fait beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il est important de se rendre dans les cellules aussi, pouvoir partager ces choses ensemble. Je vous invite vraiment, si vous n'avez pas l'habitude de joindre votre cellule, c'est une occasion vraiment cette semaine de la rejoindre. Voilà. J'espère que j'ai rien oublié. On veut encore se réjouir de ce temps de l'Avent dont on nous a parlé et de cette espérance qui nous est promise. Et je vous invite à vous lever, je vous lire encore deux versets de la lettre de Paul, comment Paul finit cette lettre aux Hébreux, et c'est vraiment ce que ce message de l'Avent veut nous donner. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par son sang, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté. Qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.